Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue pour le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est en mars, non, en avril 2021, c'est l'épisode 181 et je parle vite parce qu'on a peu de temps, on ne sait pas quand le deuxième enfant va sonner à la porte du ventre de ma femme pour dire maintenant il est temps. Ça peut être littéralement d'un moment à l'autre, donc on va essayer de faire l'émission très vite avec Escarina pour ne pas devoir couper en urgence et laisser les gens sur Twitch genre d'un moment à l'autre, genre « Ah, mon Dieu, je dois partir !» Bon, donc on réduit les chances en faisant très vite. Il faut parler vite, Eska. Ça va, t'es prête?
Ça marche, je suis prête. C'est complètement fou, t'imagines, ce serait une première mondiale d'avoir un accouchement en direct d'un podcast.
Écoute, je peux te rassurer à deux niveaux. D'une part, on n'a pas prévu de faire l'accouchement dans mon bureau, ni même dans la maison, donc on va essayer d'aller à l'hôpital quand même, même si, pour vous raconter tous les détails, on est à genre une heure de route de l'hôpital, donc il ne faut quand même pas traîner. Voilà. Et d'autre part, quand bien même on ferait l'accouchement à la maison, je te promets que je ne le diffuserai pas en live sur Twitch, ou en tout cas pas volontairement. Maintenant, on ne sait jamais, si j'oublie de couper le stream, ça pourrait peut-être arriver, mais ce n'est pas prévu comme ça. Donc voilà.
C'est mieux pour les âmes sensibles.
On va dire ça. En même temps, j'espère qu'il va être moins long que le dernier, parce que pour notre premier enfant, il y a eu à peu près 40 à 45 heures de travail. Tu vois, donc j'espère que ça va aller un petit peu plus vite quand même. Mais pas trop vite, parce qu'on a une heure de route.
Il paraît que le deuxième... Oui, bah oui, mais il paraît que le deuxième, normalement, c'est plus facile, donc...
Oui, c'est ce qu'on espère aussi, oui, clairement. Tu sais quoi ? On va parler de plein de choses liées aux jeux vidéo et non pas à la procréation et la reproduction de la race humaine. D'ailleurs, nous, on fait notre boulot, hein, parce que visiblement, il y a eu un... Comment ça s'appelle ? Un flop des naissances avec la pandémie. Nous, on fait notre travail pour notre devoir pour perpétuer l'humanité. Tu vois, on a fait... un enfant en plus, donc j'espère que vous appréciez et que vous comprenez notre sacrifice, qui est vraiment un sacrifice, parce que déjà qu'avec un, on souffrait, avec deux, ça va être marrant. Bref, c'est fini les histoires de famille de Patrick. Parlons plutôt de trucs beaucoup plus intéressants comme l'Apple Arcade, l'E3 2021, les jeux auxquels on joue en ce moment, il y en a des plutôt sympathiques. Puis on a toute une série de news de l'industrie, de news de jeux, de tests qui arrivent bientôt. Avant ça, je voudrais quand même prendre une toute petite seconde ou une seconde et demie pour remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu et qui permettent par ce truchement la perpétuation de la race humaine, qui nous permettent d'acheter des couches et du lait pour l'enfant qui va bientôt arriver. Je nomme spécifiquement Romain Bouillot, Benoît Delry, Manuel Payet, Push and Rise, Hugo Duprat, Stéphane Jupil. Et je cite les trois producteurs de l'émission d'un coup, Johan Journé, Chulrac et Lancelot Davizard. Pourquoi je fais ça ? Bah parce que a priori, on ne sera pas là la semaine prochaine. J'espère pour ma femme qui commence à devenir un petit peu impatiente. Et donc, je n'aurai pas l'occasion de citer les producteurs plusieurs fois dans le mois. Donc, je les cite tous d'un coup. Merci à vous tous, tous ceux qui soutenez l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Je vous fais des gros bisous déjà. Alors, commençons, tiens, par un truc qui est assez incompréhensible pour moi, et on va en parler avec toi, Eska. À quel point Apple nous cache l'Apple Arcade ? Alors, j'exagère, mais à peine. Vraiment, je trouve qu'ils ont un produit qui est peut-être pas le meilleur produit jeu vidéo de l'histoire du monde non plus, mais ils ont un produit qui est d'une qualité assez incroyable. Et ils n'en parlent jamais. Là, ils viennent de faire une nouvelle pas mise à jour, mais enfin un nouveau batch de nouveaux jeux. Et ils ont un petit peu changé leur politique pour ne pas avoir uniquement des jeux exclusifs, mais inclure aussi des jeux de l'histoire de l'Apple Store, de l'App Store, qui sont de grande qualité. Alors, c'est peut-être des jeux qui ne sont pas les plus core gamers de la Terre, mais c'est des trucs quand même assez, assez sympas, comme, comment il s'appelait, Cut the Rope, et ce genre de trucs. Fruit Ninja, des trucs qui passent... Voilà. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment fouiller pour aller trouver ces informations. Je ne comprends pas la politique d'Apple à ce niveau-là, quoi. Tu es abonné à l'Apple Arcade parce que tu avais 3 mois gratuits avec ton nouveau téléphone.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses du service, du coup, depuis, ça fait quoi, 1 an et demi qu'il a été lancé, quelque chose comme ça, 1 an? Moi, je m'étais abonné les premiers mois et puis j'ai plus beaucoup de temps. On me confirme dans la chatroom qu'effectivement, quand on a un deuxième, on n'a plus de temps du tout, ce qui me terrifie. Mais pardon, vas-y, revenons aux jeux vidéo.
Le premier gardera le deuxième, Patrick.
On va dire ça, ouais.
À quel frais, je ne sais pas. Alors, en fait, comme toi, moi, je m'étais abonné à l'Apple Arcade quand le service était sorti, parce qu'à l'époque, je m'étais procuré un iPad et donc j'avais déjà pu bénéficier, je crois que c'était de 1 mois ou 2 gratuit. Et effectivement, à l'époque, je trouvais que le service était très bien avec des jeux de qualité. Et en fait, j'ai retourné régulièrement pour voir les mises à jour et les nouveaux jeux qui étaient faits. Et le constat que je faisais, qui s'est renouvelé là il y a quelques semaines quand j'ai réactivé 3 mois d'abonnement avec l'achat de mon téléphone, c'est qu'en fait, le catalogue avait, alors de qualité certes, mais a très très peu bougé depuis que le service s'est lancé. Et donc du coup... un petit peu déçu parce que pas beaucoup de nouveautés, donc forcément t'es pas tenté de payer. Alors il faut savoir, il me semble que c'est 5€ par mois, hein, l'Apple Arcade, enfin 4,99€.
C'est 4,99€ et c'est inclus dans l'abonnement Apple One, qui inclut les différents abonnements
télé,
d'Apple,
ouais.
Et voilà, et qui coûte 15€, je crois, quelque chose comme ça.
Donc, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, on s'y retrouve complètement. D'autant que dans la liste de jeux qu'ils proposent, il y a pas mal de jeux qui sont stand-alone, c'est pas des jeux que tu fais pendant des heures, c'est des jeux avec une histoire que tu peux terminer comme un vrai jeu, entre guillemets. Donc du coup, si tu veux t'abonner 1 mois pour 5€, tu peux découvrir plein de jeux vachement bien. Mais effectivement, je trouvais qu'il y avait un manque de renouvellement du catalogue. Et donc là, j'ai vu qu'effectivement, ça date de quand leur ajout de nouveaux jeux ?
Bah écoute, ils ont fait ça il y a, je sais pas, moins d'une semaine, et ils ont ajouté, alors on pourrait mentionner plusieurs jeux, mais les jeux spécifiques qu'on va évoquer pour les fans de gaming traditionnel, c'est World of Demons, un jeu de Platinum, Platinum Games, et Phantasian, qui est un jeu de Mistwalker, qui est composé en grande partie d'anciens de Final Fantasy, et qui rappelle un petit peu Final Fantasy, et rien que pour ces deux jeux, tu vois, c'est des jeux qui pourraient énormément plaire à des utilisateurs de jeux, comment dire, classiques, traditionnels, donc console et PC. Même si, en même temps, je crois que l'un des problèmes qu'on a, en fait, dans notre univers du jeu vidéo, et là, j'en profite pour faire un petit plug pour ma dernière vidéo sur YouTube, où j'essaye d'explorer l'idée que les jeux sont chers. Et rien qu'en commençant à parler des jeux qui sont donnés gratuitement, on se rend compte qu'on a trop de trucs à faire. Et si on parle des jeux qui soient bonus ou gratuits, j'ai une liste des noms des jeux qui sont offerts avec les abonnements, vous savez, les jeux genre abonnement PS Plus, abonnement Xbox Live. Comment on peut les appeler ? Genre les jeux gratuits, les jeux semi-gratuits, les jeux bonus, les jeux offerts, les jeux inclus. Moi, j'aime bien les jeux bonus. Mais quoi qu'il en soit, j'en parle dans cette vidéo. Et ce que je constate au final, c'est que bon, les jeux vidéo, c'est pas forcément aussi cher qu'on veut bien le penser. Mais surtout, on est déjà pleinement satisfait de nos plateformes et on n'a juste pas le temps. Moi, je regarde. Bon, c'est peut-être parce que moi, j'ai des enfants bientôt et beaucoup de travail. Mais je vois Phantasian, je vois World of Demons, j'ai envie de les essayer, mais j'ai pas vraiment le temps, quoi.
Bah oui, on est obligé d'être beaucoup plus sélectif. Donc forcément, pour des gens comme nous, qui avons une vie familiale et professionnelle très active, c'est effrayant en fait de voir tout ça, parce qu'on a l'impression de passer à côté de plein de super trucs, mais en même temps, il faut bien faire des choix. Mais ouais. Tu sais, je sais pas si tu aimes lire. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime
non,
beaucoup
lire. Non, lire, c'est pour les nerds. En fait. Moi, je lis pas. Je déteste lire.
Moi, je lis de tout. Je lis de la BD, du roman graphique, des romans tout court. Et en fait, je pense que c'est un constat que tu es obligé d'accepter depuis très longtemps. C'est qu'il sort des milliers de livres par jour, que tu n'auras jamais assez d'une vie pour tout lire et qu'à un moment, tu dois te résoudre à te dire ben, « Oui, tu sélectionnes très précisément ce que tu veux vraiment lire parce qu'il y a trop de ouais. choses. » Et le jeu vidéo, c'est pareil. Donc, c'est, en fait, tu es obligé... C'est, le choix est une forme de deuil, Patrick.
J'aime bien ça. J'aime bien ce nom. Le choix est une forme de deuil. Écoute, je crois
choisir,
que...
Choisir, c'est mourir un peu. Je sais plus qui avait dit ça, mais...
C'est vrai, je ne connaissais pas cette expression. C'est très, très bien trouvé. Ouais.
Mais voilà, quand tu fais un choix, eh bien, tu acceptes de laisser mourir une partie d'autre chose. Et du coup, c'est pour ça que c'est douloureux.
Écoute, je le choisis en titre. J'avais un autre titre, mais le choix est une forme de deuil. Ça va être le titre de l'épisode. Non, mais c'est vrai. Et c'est pareil pour la musique. On a accès pour 10 euros à toute la musique du monde maintenant. On a pour...
sans parler de Netflix.
Voilà, exactement. Ouais, on a trop de... C'est dingue, hein. On prend ça, c'est marrant parce qu'on parlait dans le rendez-vous tech il y a quelques jours du fait que les choses sont mieux aujourd'hui dans beaucoup de domaines et dans la tech en particulier. Et c'est vrai, dans l'accès à la culture aussi, on a tellement de possibilités et d'accès pour des sommes modiques qu'on ne s'en rend presque pas compte à quel point on est... pourri par l'accès à tout, en fait. Et on prend ça comme acquis, alors que les suffisamment vieux comme nous se souviennent qu'il y a une époque où bah, c'était pas comme ça, quoi. Quand tu voulais... Et c'est marrant parce que j'en parle dans la vidéo, c'est vraiment pas... Là, pour le coup, c'est pas un plug volontaire, mais j'en parle dans la vidéo. Les jeux coûtaient genre 500 euros pièce. Pardon, pas 500 euros. 500 francs pièce, qui fait à peu près 100 euros. Mais moi, ça m'a fait penser, on en parlait dans les commentaires de la vidéo, et on parlait de musique, de télé, tout ça, et on disait, ça m'a rappelé qu'il y a une époque où moi, j'allais à la Fnac pour écouter les nouveaux CD genre du mois, et chaque CD te coûtait 120 balles, 120 francs, ce qui fait à peu près, je sais pas, 20 euros, quelque chose comme ça, par CD. Et enfin, tu vois, quand, bon, bref. Enfin, et donc, aujourd'hui, l'accès à la culture, c'est quand même un petit peu plus facile qu'à l'époque, quoi. Mais bref.
C'est même beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins onéreux. Enfin, tout à l'heure, tu parlais du prix, mais effectivement, aujourd'hui, le coût du jeu vidéo est bien moins important qu'à l'époque. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça que certaines plateformes... Donc là, on parle de l'Apple Arcade, mais je pense aussi à l'eShop de la Switch. C'est des plateformes qui sont au lancement rassurantes parce qu'elles proposent peu de contenu et du contenu de qualité. Et c'était le cas de l'Apple Arcade au lancement et le cas de l'eShop. Et si je te fais le rapprochement, c'est parce que moi, je trouve qu'avec les 30 jeux qui ont été rajoutés par l'Apple Arcade, alors certes, il y en a quelques-uns qui ont l'air vraiment très bien, mais la moitié des 30 jeux, c'est du solitaire, littéralement, hein, des petits jeux Windows à la con, quoi, qui nous rajoutent. Et ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu ça, parce qu'ils te disent « Ah ouais, de l'ajout de 30 nouveaux jeux ?» Moi, je pense... Ajout de 30 nouveaux jeux sur Apple Arcade, c'est forcément des jeux de très belle qualité. Et final, en fait, bah non, la moitié, cas, ouais. C'est du petit pocket game. Et quand je vois, j'en discutais là sur Twitter cette semaine, ce qui est devenu l'eShop de la Switch, qui lui aussi était très très quali au tout début, et maintenant c'est devenu une vraie poubelle.
J'irai pas jusque-là, mais je t'avoue que sur Switch, à mon avis, c'était pas une volonté éditoriale de Nintendo. C'est marrant, ils sont très similaires, elles sont très similaires ces deux boîtes, mais c'était pas une volonté éditoriale de Nintendo, à mon avis. C'était juste que après la Wii U, personne croyait à Nintendo et les gens ont mis du temps à se réveiller. Et tu vois, Nintendo, ils accueillent tout le monde, quoi. Tant qu'il y a de l'argent à se faire, ils disent pas non. Donc, mais c'est vrai qu'au final, pardon.
Non, l'analogie que je faisais, c'est que quand je regarde aujourd'hui l'eShop de la Switch, j'ai l'impression d'aller fouiller dans les bacs de jeux d'occasion de Micromania, des jeux 3DS, où tu vois des dizaines de jeux en 3 ou 4 exemplaires dont tu n'as jamais entendu parler, des trucs complètement obscurs. Et du coup, c'est d'autant plus flippant quand tu es obligé de faire des choix. Moi, je préfère faire des choix sur peu de choses de qualité que sur des trucs comme ça. Mais bon.
Bon, faut avouer que l'Apple Arcade a aussi un but autre qui est de fournir aux développeurs un moyen de monétiser des jeux qui ne sont pas des jeux free-to-play un petit peu prédatoriaux. Et Apple finance l'existence de jeux de qualité, non jeux service, que tu achètes une fois que tu payes, que tu finis et c'est terminé. Donc il y a aussi ce but. Et peut-être que l'abondance est l'une des raisons pour lesquelles on ne parle pas un peu plus de l'Apple Arcade, mais je pense quand même qu'il y aurait un plus gros coup à jouer pour Apple, qu'ils mettent un petit peu d'effort dessus. Et comme je le disais les semaines précédentes, peut-être qu'avec une nouvelle Apple TV plus focalisée sur le jeu, ils vont en parler un petit peu plus. Mais c'est surprenant, quoi. C'est un petit peu étonnant quand même. Et du coup, tu as essayé World of Demons, parce que c'est quand même un Platinum ou Fantasian, qui est un JRPG classique, non?
Alors, World of Demons, je sais que j'y jouerai pas parce que les jeux de Platinum Games, aussi qualitatifs soient-ils, c'est pas ma tasse de thé. Par contre,
mais gratuitement,
clairement...
à downloader, tu le downloads. Tu vois, non, mais c'est ça. Excuse-moi, je t'interromps, mais ça me fait penser aussi à Outriders. Outriders, il est inclus
dans
le...
Ah bah, on peut en parler si tu veux, j'ai fait la démo.
T'as joué ? Bon bah, fini sur... Bon, Platinum, c'est pas ton truc, donc tu l'as même pas
voilà,
downloadé.
Voilà, mais Fantasian, je pense que j'essaierai, parce que je suis une dingue de RPG et de... Forcément, enfin, moi, tu me sors Final Fantasy, tout de suite, ça réveille des choses en moi. Après, voilà, c'est plus la plateforme, là, j'y jouerai certainement sur tablette et pas sur téléphone, parce que quand je vois la tronche des interfaces que sur téléphone, ça doit quand même être assez imbitable. Mais voilà, ça, je sais que je testerai par curiosité. Quoi. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au
bout. Bah on parlera de Outriders tout à l'heure, mais ça me fait penser un petit peu à la même chose, c'est qu'il est inclus dans le Game Pass, et c'était quand même un jeu qui faisait un petit peu de bruit en ce début d'année, et du coup, je ne l'ai même pas installé. Bon, j'ai quand même joué à la démo sur PS5 quand elle est sortie, la démo, donc j'avais testé un petit peu le jeu. Je l'ai installé sur Xbox ensuite, puisqu'il était inclus dans le Game Pass, et j'ai même pas pris le temps d'y jouer plus de 10 minutes parce que j'ai juste... Bon, c'est une question de temps aussi. Mais c'est marrant de se dire que, comme toi, avec le Platinum sur Apple Arcade, tu l'installes même pas parce que, bon, bah, c'est... Alors que c'est un événement, quoi, un nouveau jeu Platinum. Mais bref. Bon, donc Apple Arcade. Ouais. Bon.
Donc l'Apple Arcade, ouais, au final, moi, je préférerais qu'ils aient une stratégie où ils restent sur de la qualité et qu'ils ajoutent un ou deux jeux régulièrement, comme ils le faisaient au début du lancement de la plateforme, plutôt que plus rien pendant des semaines, et puis d'un seul coup, ils nous balancent 30 jeux, et là-dedans...
Super. Ouais, comme le dit Thomas dans le chat, on attend peut-être qu'il arrive sur console traditionnelle comme Switch, et c'est vrai qu'il y a plusieurs jeux qui sont sortis sur Apple Arcade, qui étaient dispo depuis un moment, et dont on a vraiment entendu parler quand ils sont sortis sur console traditionnelle, et c'est marrant que la plateforme change à ce point la perception du truc, quoi. Bon, parlons un petit peu de l'E3. L'E3 2021 a été un petit peu détaillé par l'ESA, et on aura donc la présence de plusieurs grosses sociétés comme Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers, Koch Media, et pas de signe de Sony, pas de signe d'EA, pas de signe de quelques autres. Et surtout, l'information intéressante à noter, c'est que ça sera un événement évidemment entièrement virtuel, entièrement streamé, ciblé sur 3 jours ou 4 jours, du 12 au 15 juin. Donc, ils vont organiser les streams pour que chacun ait son moment son moment au soleil. On avait aussi entendu que le Summer Game Fest de Jeff Keighley serait concentré lui aussi sur un mois plutôt que sur les 3 ou 4 mois comme l'année dernière. Moi, je pense qu'il risque de pouvoir recréer le buzz et la hype des E3 classiques, auxquels finalement ont participé l'essentiel du monde du jeu vidéo, participé en streaming. Donc, ça ne changeait pas grand-chose pour nous qu'ils existent en réel ou pas. Et que ça sera une bien plus grande réussite que l'année dernière, où c'était étalé sans aucune organisation sur des mois et des mois. Là, je pense que ça crée la hype, potentiellement, ça crée la hype de l'E3. Et on imagine bien que PlayStation, s'ils ne sont pas dans l'E3 lui-même, vont faire un événement juste avant ou juste après, enfin, sans doute juste avant. Et j'imagine que EA aussi. Donc, à mon avis, ça peut refaire un petit peu cette hype. Moi aussi, j'ai très hâte d'être en juin, Kassim, non seulement pour l'E3, mais aussi parce qu'en juin, les difficultés des deux premiers mois seront peut-être un petit peu en train de passer. Pardon. Oui, mais donc, Hype 3, t'y crois, Eska? Moi, j'y crois à fond. Hein. Je suis totalement prêt sur les starting blocks.
Oui, alors déjà, je pense qu'effectivement, ils ont bien fait de repenser la façon dont ils vont faire cet event.
Pour rappel, l'année dernière, il n'y avait pas eu de vrai E3. Hein. C'était des événements un petit peu disparates. L'ISA avait annulé l'E3 et donc ça avait été un petit peu le bordel. Et tout le monde s'était dit, bah, du coup, personne n'a besoin d'E3. On se rend compte qu'une marque fédératrice ou un événement fédérateur, ça peut aider et ça peut être un plus. Alors que l'année dernière, certains se disaient, moi, je n'étais pas de ce camp, je crois, qui ne pensaient pas qu'on avait besoin d'E3. Mais... Oui, pardon, je voulais juste préciser, pour ceux qui l'avaient oublié, que l'E3 n'avait pas eu lieu l'année dernière. Mais oui,
oui tu fais bien. Bon, après, j'ai rien de beaucoup plus intéressant à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est toujours un frisson, l'E3. On espère toujours des annonces, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière, où on avait été tous un petit peu déçus. Donc, a priori, ils ont appris de leurs erreurs, et il faut espérer qu'en un an, c'est quand même des mecs qui bossent dans la tech, qu'ils aient tout prévu pour nous faire un truc à la hauteur. Et puis, moi j'espère, à titre très personnel, que Blizzard nous fera les annonces qu'on attendait à la BlizzCon et qu'on a pas et qu'on aura Diablo 4 en 2021 et Overwatch 2, bien sûr.
Alors, les deux, on sait qu'ils ne vont pas sortir en 2021, donc tu vas être déçu. Overwatch 2 Diablo 4 ne vont pas sortir cette année. Peut-être qu'on en entendra parler. Moi, je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, on n'a pas Activision dans la liste des gens qui ont été... Ah si, non, on n'a pas Activision dans la liste. Donc, ils vont peut-être être rajoutés ensuite, mais c'est... Peut-être au-delà d'une présentation du prochain Call of Duty chez Microsoft ou un truc comme ça, ça me semble peu probable qu'on ait beaucoup plus. Mais par contre, là où moi j'ai beaucoup d'espoir, c'est que tout le monde a des grosses cartouches, en particulier les gros constructeurs. Du côté de chez Microsoft, on a évidemment Halo Infinite, dont on veut savoir un petit peu plus, dont on sait qu'il sort, a priori, cette année. Il y a potentiellement Starfield de chez Bethesda qui pourrait être présenté un peu plus longuement, enfin, présenté tout court, on n'en a rien vu. Il y a potentiellement un GTA 6, peut-être, qui sait, qui pourrait être présenté chez Take-Two. On a un prochain Assassin's Creed chez Ubisoft. Enfin, il y aura Konami qui sera présent, et là, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Capcom, j'ai le vain espoir qu'ils présentent un Street Fighter 6. Et puis, on a PlayStation, même s'ils ne sont pas à l'E3, ça arrivera dans les alentours de l'E3. Là, on a toute une série de choses qui pourraient être explosives, comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, et d'autres choses qu'ils pourraient nous présenter aussi. Il y a plein de choses qui seraient dans la liste, quoi.
Il y a eu des rachats vraiment impressionnants et critiques pour l'industrie depuis l'année dernière, et j'espère que du coup ça va donner un petit coup de fouet aux annonces à ce niveau-là aussi, quoi, que du coup les acheteurs vont vouloir nous en jeter plein la vue et qui nous préparent des trucs super chouettes, quoi.
Tu espères quoi spécifiquement, toi?
Bah, par exemple, tu vois, avec Bethesda, je me dis peut-être qu'on aura des choses un petit peu excitantes à se mettre sous la dent. Alors, peut-être un peu plus de visuel sur les projets à venir, ou j'en sais rien, sur le prochain Elder Scrolls, tu vois, des choses comme ça.
Déjà, ils ont déjà qu'ils nous ont rien montré de Starfield, à mon avis, Elder Scrolls qui arrivera après, t'as beaucoup d'espoir, hein.
Ouais, bon, écoute, je me dis, est-ce qu'ils vont pas essayer de faire fructifier d'un point de vue marketing très rapidement les achats qu'ils ont faits en faisant des annonces, on verra bien.
Ouais,
mais
peut-être.
En tout cas, ça promet d'être intéressant, quoi. Mais oui, après, c'est comme pour Blizzard tout à l'heure, hein, c'était une plaisanterie. Je me doute que malheureusement, on n'aura aucune nouvelle là-dessus, mais bon.
On avait un leak de Capcom, me dit-on dans la chatroom. Merci Swin, qui date de novembre. J'en avais peut-être déjà parlé quand ils se sont fait pirater. Et bon, il n'y a pas énormément de choses incroyables pour cette année et les choses ont peut-être déjà évolué. La chose la plus importante de ce leak, c'est que Street Fighter VI serait prévu pour le troisième trimestre 2022. Donc, ça serait peut-être un petit peu tôt pour l'annoncer encore, d'autant plus qu'on va parler dans quelques minutes de Street Fighter V. En même temps, dans cette liste, il y a genre Street Fighter VI, Super Street Fighter VI prévu pour l'année suivante et Ultra Street Fighter VI pour l'année d'après. C'est la tradition des jeux Street Fighter qui revient. Rien que pour ça, moi, ça pourrait me plaire.
Un truc un peu réaliste en attente, peut-être, c'est juste Final Fantasy VII Remake. Peut-être qu'ils vont nous parler de la part 2, du coup.
Mais attends, Final Fantasy XVI ? Comment peut-on oublier Final Fantasy XVI aussi ? Partout, aussi. C'est une chose, mais... Ah, y a... ouais, vivement le 3, vivement le 3, on est d'accord. parlons un tout petit peu... on va faire une petite pause, tiens. On va faire une petite pause pour que je vous parle de Patreon. Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon ? Dites-moi oui ou non, dans votre téléphone, dans le métro, dans votre chambre, en train de faire le ménage, là, tout de suite. Vous connaissez Patreon ? Oui ou non ? Eh bien, si vous répondez oui, je vais vous dire, mais pourquoi n'êtes-vous pas sur Patreon, abonné au rendez-vous jeu déjà ? Pourquoi ? Donnez-moi une bonne raison. Et je suis sûr qu'il y a quelques bonnes raisons, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises raisons. Donc, peut-être que vous devriez y jeter un coup d'œil. Et si vous ne connaissez pas, je peux vous expliquer très facilement. C'est un système de soutien participatif aux créateurs que vous appréciez. Vous allez sur Patreon, sur patreon.com/rdvjeux, et vous pouvez choisir la somme que vous allez donner au rendez-vous jeu. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros. Vous êtes facturé à la fin du mois. Et vous avez droit non seulement à plein de bonus super cool, comme un flux sans pub, un flux privé où il n'y a pas de pub, où il y a des éditos, des bonus, l'after show qu'on fait avec les membres de la communauté. Mais en plus, vous avez la fierté de vous dire que vous soutenez un créateur indépendant qui vit grâce à ses auditeurs, grâce à vous. Et je pense que ça, c'est un sentiment qui n'a pas de prix. D'autant plus quand il faut acheter des couches et des choses. En même temps, c'est pratique parce qu'on a déjà une bonne partie des trucs du premier, mais il y a quand même des choses qu'il faut acheter en plus. Donc, j'espère que vous serez sensible à mon appel et que... Non, la bonne raison pour soutenir l'émission, c'est rien de tout ça. C'est même pas, en fait, en réalité... Si vous avez envie de m'aider, moi, la vraie bonne raison, c'est si vous estimez que l'émission est cool et que l'émission en vaut la peine et que vous vous dites, bah ouais, c'est un truc vraiment cool qui me plaît, que j'aime bien avoir chaque semaine dans les oreilles, ça me fait passer un bon moment. Allez, ça vaut le prix d'un croissant, je vais être gentil. Et on envoie sur patreon.com/rdvjeux le soutien à l'émission. Donc, je vous remercie très, très chaleureusement si vous le faites déjà et si ça n'est pas le cas, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ce système sur patreon.com/rdvjeux. Merci à tous.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, parlons un petit peu du coup de nos jeux du moment. On y arrive. Je vais peut-être commencer avec un jeu que j'ai testé qui s'appelle Knockout City. Est-ce que tu connais Knockout City ?
Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, Knockout City, c'est un jeu qui était en bêta, fermé ou ouverte, je ne sais plus, le week-end dernier. Et c'est un jeu de dodgeball, c'est EA, je crois. Je crois bien que c'est EA qui l'a lancé. Et c'est un tout petit jeu, un petit peu compétitif, en équipe de 3 contre 3 en dodgeball. Et franchement, J'ai pas joué très très longtemps. Hein. J'ai joué peut-être une
Dodgeball,
petite heure.
C'est la balle aux prisonniers, hein, c'est
exactement,
ça
oui. Tout à fait, tout à fait. Et je pense pas... Ça me fait un petit peu penser à Roller Derby, ce jeu de Ubisoft qui est finalement jamais sorti, ou ce genre de tout petit jeu un petit peu compétitif. Et en fait, je sais pas, j'ai fait ma première partie, en fait, j'ai perdu. Et j'ai trouvé ça vraiment peu inspiré et un peu chiant. Ma deuxième partie, on a gagné et j'étais MVP. Et du coup, j'ai trouvé le jeu vraiment sympa, avec un petit potentiel, tu vois, le genre de truc. Je sais pas si c'était lié à mon expérience de jeu ou pas, mais au final, j'ai trouvé qu'il se cachait derrière la simplicité du truc, une sorte de profondeur un peu inattendue. C'est Roller Champions, merci Vegabigs, le jeu d'Ubisoft auquel je pensais. Il y avait une complexité, une profondeur qui était assez plaisante. Et puis surtout, le jeu est un petit party game bien sympa, que j'imagine bien avoir un certain succès. On est avec deux amis et on va se faire un petit truc tranquille en discutant de ce qui s'est passé cette semaine pour eux et en se détendant un petit peu. C'est un peu... ça s'apparente peut-être un tout petit peu plus qu'à Roller Champions, Roller Derby Destruction Champions. Ça s'apparente un petit peu plus à... Rocket League. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et c'est un petit peu la réponse presque à Rocket League de EA. Je trouve que c'est franchement pas trop mal. Faudra voir combien il coûte. J'imagine que c'est le genre de jeu qui est free-to-play. Mais c'est assez sympathique. Et les mécaniques de balles aux prisonniers, de lancer, d'attrapage de balles, des balles spéciales qui ont des effets spéciaux. On peut faire des dashs pour éviter les balles ou rentrer dans les ennemis. Ça devient assez vite dynamique, assez vite. Et ça fonctionne pas mal. C'était une assez bonne surprise au final. Je dis pas que c'est le jeu de l'année, hein, mais c'était une assez bonne surprise. Je sais plus quand il sort. La bêta donc vient d'avoir lieu. Il sort le 21 mai et il coûte 20€. Et il y aura un essai gratuit en fait, disponible un petit peu partout, et on peut payer après la fin de l'essai gratuit. On va voir comment ça fonctionne. Mais franchement, sympathique. Je trouve ça étonnamment pas trop mal. Voilà, je le dirais comme ça. On me demande si c'est une réponse à Rocket Arena. Non, non, Rocket League, vraiment. Je pense que c'est un petit jeu de sport détendu, sympa, qui peut faire des moments de tension sportive sympa et qui n'est pas très prise de tête. Ce n'est pas un FPS stressant ou un TPS stressant. C'est vraiment ce genre de truc tranquillou et à faire entre amis, je trouve. À voir s'il y a la profondeur de skill qu'on retrouve dans Rocket League après. Donc voilà pour l'un des jeux auxquels j'ai joué. Toi, tu me disais que tu as testé du coup Outriders qui était sur le Game Pass.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je n'y ai pas joué sur le Game Pass parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'est disponible que pour le Game Pass console et pas pour le Game Pass PC.
C'est possible, oui.
Et donc, du coup, j'ai fait la démo sur Steam parce que je n'avais pas pu participer à la bêta. Ils ont fait une bêta là, il y a 2 ou 3 week-ends. Je n'avais pas pu y participer. Et alors, moi, c'est un jeu qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand il avait été annoncé à l'E3. Je trouvais que visuellement, il avait une identité vraiment ultra sexy. Donc, j'ai fait la démo et je le trouve très chouette. J'aime beaucoup l'ambiance. Je ne sais pas pourquoi ça me fait un peu penser à du Mass Effect dans l'univers.
Un petit peu,
ça,
ouais.
Ça m'a vraiment fait penser à ça. Après, au niveau du gameplay, bon, ça reste assez classique. Par contre, pour moi, le gros défaut, mais qui me concerne moi, c'est qu'en fait, c'est un jeu où tu peux prendre du plaisir qu'en multi. Et malheureusement, là, en ce moment, j'ai un rythme de vie qui ne me permet pas vraiment de m'impliquer dans un jeu multi. Mais je pense que si tu te trouves deux, trois copains pour faire le jeu en multi, c'est vraiment une super alternative à du Destiny ou à des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des missions en session. J'ai plus le terme. Tu te lances dans des missions à jusqu'à 4 joueurs dans des instances. Voilà, c'était ça que je cherchais. Mmh. Et tout est scénarisé. Et après, bah, c'est du jeu de loot. C'est pour ça que moi, ça me fait un peu penser à du Destiny. Mais je trouve que l'écriture est chouette, l'univers est sympa, la DA est vraiment soignée. C'est un bon petit jeu, quoi. Pas prise de tête. Alors, je ne sais pas si c'est du double A ou du triple A à ce niveau-là. Mais
un peu entre les deux, ouais. Disons qu'il y a quelques années, ça aurait été du triple A. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt du double A.
C'est peut-être plus du double. C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais je pense qu'en multi, c'est vraiment un bon jeu. Si tu aimes bien faire du Division ou du Destiny entre potes, je trouve que c'est une bonne alternative. Avec un côté un peu Gears of War aussi, avec le système de couvert, etc. Ouais. Et puis le système de classe qui est chouette. Enfin, moi, j'ai bien aimé.
Ouais, moi j'ai pas été super fan au-delà de l'introduction, et encore, moi j'ai trouvé que l'histoire était moyenne. Je trouvais que la difficulté était pas très bien dosée, mais surtout j'ai trouvé que Square a très mal communiqué sur le jeu, parce que c'est un jeu qui est pas un jeu service. On a une aventure, et puis c'est pas que c'est terminé, je suis sûr qu'il y a un endgame, mais on n'a pas d'autres choses à payer ensuite. C'est un jeu à la Diablo où on fait le truc et c'est fini. C'est... Comment dire, c'est un tactical cover shooter qui a des classes. Ça, on a vu les classes, je trouve, mais je trouve que les mécaniques sont moins bonnes que dans un truc comme Destiny. Et comme Destiny existe, oui. Je ne suis pas sûr qu'il ait sa place, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il veut occuper la place de Diablo plus ou moins et de Destiny un petit peu plus ou moins, mais qui ne fait rien aussi bien que les autres. Donc
ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas un jeu qui marquera l'histoire du jeu vidéo, mais je pense que pour si t'es quelqu'un qui aime bien faire des jeux avec une bande de 2-3 potes et que tu t'ennuies un peu sur du Destiny ou sur du Division, ça peut être une bonne alternative pour passer un peu de bon temps. Après, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pas aussi polish ou aussi quali que les autres titres qu'on a cités. Mais enfin, tu vois, par rapport à un thème, j'y crois un peu plus.
C'est sûr que... Non, mais tu prends l'exemple, le contre-exemple parfait aussi. C'est sûr qu'en thème,
non, mais
oui.
Pour moi, en thème, c'était un peu les mêmes je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée. C'était un peu les mêmes... Il essayait de faire un peu les mêmes choses, tu vois ce que je veux dire.
Je comprends, oui. C'est sûr qu'il est plus réussi qu'en thème, ça, je pense que tout le monde sera d'accord, oui. C'est vrai. Bon, écoute, très bien pour Outriders. Parlons un petit peu de Children of Morta, tiens. Tu le connais, Children of Morta, bien sûr.
Ah ouais, j'adore.
Eh bien, écoute, on en parlait dans l'after show du dernier épisode. Le nouveau mode de Children of Morta est arrivé. Et ça me donne l'opportunité de reparler du jeu qui a eu énormément de mises à jour. C'est ce que nous disait Thomas dans l'after show la semaine dernière. Et des mises à jour dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Il y a des mises à jour assez substantielles, comme l'ajout d'un nouveau personnage gratuit. Et donc ce nouveau mode Family Trials qui est un vrai roguelike, ou roguelite plutôt, et qui est vraiment très sympa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Children of Morta, c'est un jeu en pixel art, un roguelite histoire dans lequel on pouvait progresser petit à petit, c'est-à-dire que quand on passait un monde, on avait accès au monde suivant, il y en a 3 en tout, et il y a plein de personnages qu'on débloque, qui font partie d'une famille et qui... s'influencent l'un l'autre dans un système de progression assez intelligent. Et donc, ils avaient prévu différents DLC. Et là, le dernier DLC qui était censé amener un nouveau mode payant, ils ont fini par le fusionner avec un DLC précédent et le donner gratuitement. Et vraiment, c'est un super, super bon jeu. Je trouve que les graphismes, maintenant que je joue sur ma grande télé... ils sont un petit peu plus moches qu'à l'époque. Peut-être que les graphismes en pixel art ont évolué un peu aussi depuis. Mais le jeu reste d'immense qualité. Il coûte une 20aine d'euros. Il est dispo sur toutes les plateformes. Si vous ne l'avez pas encore, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous attendez. Il faut que vous vous précipitiez. Et en plus, ce nouveau mode qui se débloque quand on a fini la première série de niveaux, je crois, le premier monde... Et encore plus diabloesque, c'est-à-dire qu'on va progresser avec des bonus qu'on va ajouter à chaque fois qu'on finit un niveau. Et il y a tellement de monstres à l'écran, ça ressemble presque à une faille sur Diablo, pour ceux qui connaissent. Et ça devient vraiment satisfaisant. C'est hyper, hyper sympa. Ce jeu mérite, même s'il a connu un petit succès, il mérite encore plus de succès. J'espère que... cette fois-ci que je vous en parle pour la, je sais pas, 5e fois, ça vous convaincra d'aller au moins y jeter un coup d'œil si ça n'a pas déjà été fait. Ça s'appelle donc Children of Morta. Vraiment cool.
Ouais. C'est vraiment un des. C'est sûrement une des plus belles pépites indées de. Alors, qui est dispo sur le Game Pass et qui a une écriture incroyable. Ça, moi, je trouve qu'il faut toujours le souligner sur les. Sur les roguelites indés qui peuvent être parfois très paresseux au niveau de l'écriture. Donc, quand il y a vraiment. On avait parlé de Hades, par exemple, quand il y a une écriture qui est exceptionnelle, il faut le souligner. Et là, c'est le cas. Et. Enfin, voilà, si vous aimez les roguelites, il faut absolument jouer à Children of Morta.
Complètement. Alors, ce n'est pas aussi magistral sur l'écriture et ingénieux dans la mécanique roguelite que Hades. Mais avant Hades, c'était vraiment le roguelite qui a inventé une écriture qui fonctionnait pour un roguelite, quoi. Et bon, encore une fois, ce n'est pas aussi malin que Hades, mais il n'empêche, c'est clairement un aspect hyper important du jeu et il faut effectivement le souligner. Ouais, j'ai l'impression que je veux dire encore d'autres choses. C'est vrai qu'il est sur le Game Pass, tu as raison de le mentionner. J'ai l'impression que je veux encore parler de Children of Morta, mais je crois qu'on a à peu près tout dit, donc voilà. Quoi d'autre Pac-Man 99, est-ce que tu connais Pac-Man 99?
Alors j'en ai entendu parler, en fait c'est l'équivalent de Tetris 99, mais version Pac-Man quoi.
C'est un petit peu ça, en fait c'est le nouveau jeu bonus du Game Pass, du Nintendo Switch Online qui prend la suite de Mario 35 et Tetris 99 qui est encore là, je crois. Je sais plus s'il existe encore Tetris 99.
Il a sûrement. J'ai joué il y a pas très longtemps, donc ouais, je pense qu'il est encore. Ouais. Il me semble qu'il y est encore.
Et donc là, c'est un Battle Royale avec Pac-Man qui est sympathique, qui fonctionne pas trop mal du tout, et je suis assez pas étonné, mais si étonné de voir à quel point on réussit à utiliser le genre du Battle Royale de manière inventive. Et il faut survivre aussi longtemps que possible avec des malus qui arrivent sur votre écran. On peut, enfin bref, c'est un Pac-Man en Battle Royale. Vraiment, vraiment sympa. Je vous recommande de le tester si vous avez le Nintendo Online. Ce qui fait que du coup, en plus, il est gratuit. Il y a des bonus cosmétiques après mais, et quelques modes qu'on peut acheter en plus. Mais voilà, on parlait de jeux gratuits. Vous en avez encore un exemple ici. Dis-moi, Eska, toi, tu as plein de trucs dont tu veux nous parler là, d'autres jeux auxquels tu as joué. Dis-nous tout.
Alors, encore There is no game. Oui, je vais le faire très rapidement. Alors, il me semble que j'en avais pas parlé la dernière fois, There is no game.
C'est peut-être peut-être que tu avais dit que tu venais de l'acheter, du coup.
Oui, c'était peut-être ça où j'avais tout juste commencé à le faire. Et donc, ça y est, je l'ai terminé. Et donc, je confirme que ce jeu est vraiment super. Il a été récompensé au Pégase 2021, justement. Et donc, c'est fait par un studio français. Donc, voilà, c'est une expérience. Je compare toujours à la Stanley Parable, donc c'est-à-dire une expérience très méta sur le jeu vidéo. Pleine d'humour, ça se fait très vite, hein. Ça se fait en 5 heures à peine. Tu l'as fait toi, Patrick ?
Non, il fait partie de ces jeux que je veux faire. Du coup, maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il peut se faire avec un enfant en portage sur le ventre ou pas ? C'est ça la grande question, en fait.
Bah oui, parce que c'est pas violent, tu vas pas lancer des insultes ou cliquer très fort. Donc...
Très bien. Moi, ce que je faisais, en fait...
Tu peux tout à fait le faire en portage.
Avec mon fils, il y a 3 ans, je regardais l'Overwatch League qui avait commencé juste après sa naissance. Et figure-toi que la prochaine saison de l'Overwatch League commence genre dans 10 jours, juste après la naissance du deuxième. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir faire ça aussi. Mais oui,
ah oui donc, en effet.
There is no game, tu le recommandes. Comme à peu près tout le monde, j'ai l'impression.
Ouais, effectivement, je recommande plus. Un que je recommande beaucoup moins, c'est Torchlight 3. Alors ça, je le fais très rapide, mais du coup, vu qu'il a atterri sur le Game Pass il y a quelques semaines, j'y ai joué parce que j'avais beaucoup aimé Torchlight 1. J'avais bien aimé Torchlight 2 un peu moins. Et du coup, bah, Torchlight 3, j'aime beaucoup moins. Donc effectivement, je confirme tout ce qui a été dit sur le jeu. Il est vraiment pas terrible, donc passez votre chemin. Voilà, c'est pas, c'est pas exceptionnellement ni original ni au niveau de l'écriture. Il y a pas mal de bugs, on s'ennuie très vite. Enfin voilà.
Tu sais, c'est marrant, il y a... Bon, on revient encore toujours au même truc, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on se serait arrêté beaucoup plus longtemps sur un jeu comme Torchlight 3. Et maintenant, c'est juste, ouais, non, c'est pas... De toute façon, il y a mieux à faire, donc voilà. Si c'est pas un super bon c'est jeu, on n'a même pas besoin de passer plus de 2 minutes à en
parler. Il faut faire son deuil et passer au jeu suivant.
C'est ça, exactement. Et donc, le jeu suivant, c'est Superliminal.
Oui, c'est ça, Superliminal. Alors lui, ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti. C'est un jeu aussi, c'est un puzzle game qui est sorti il y a un petit bout de temps. Et en fait, c'est un puzzle game qui joue sur les illusions d'optique. Et c'est vraiment très malin. Il y a un esprit un petit peu portal, c'est-à-dire qu'on découvre que vous êtes plus ou moins dans un parasommeil, un petit peu comme si vous étiez un cobaye. Enfin voilà, il y a cet esprit-là un petit peu à la portal. Et en fait, ce qui est génial, c'est que on le voit sur la vidéo que t'es en train de passer, ça joue sur le...
Les perspectives, c'est compliqué à expliquer. En 3D.
C'est ça, sur les perspectives. Et donc, en fait, tu peux faire que les objets que tu prends en main deviennent minuscules ou gigantesques. Et tu vois là-bas, par exemple, voilà, très bon exemple avec des illusions d'optique, etc. Donc, c'est une expérience qui est assez courte. Hein. Pareil, je crois que c'est entre 3 et 5 heures de jeu. Ça joue avec des codes qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir dans les jeux vidéo. C'est très bien fait. C'est pas ultra compliqué. Hein. Moi, je suis pas très bonne pour les puzzle games. J'adore en faire, mais je n'ai pas forcément le cerveau bien fait pour ça. Et j'y suis arrivée sans trop de problèmes. Donc voilà, franchement, allez-y, ça vaut le coup. C'est pas trop prise de tête et on prend plus plaisir à découvrir les mécaniques très marrantes qu'ils ont faites, vraiment très originales. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Je pense que c'est mieux que Maquette, tu vois.
Oui, ouais.
En termes de comparaison.
Oui, beaucoup de gens en avaient parlé. Effectivement, c'était la conclusion d'à peu près tout le monde. On est d'accord. Super, bah écoute, aujourd'hui on a parlé de pas mal de choses, de Knockout City qui était en bêta ce week-end, de Outriders, de Children of Morta Family Trials, Pac-Man 99 sur Nintendo Switch Online, et de There Is No Game, Superliminal et Torchlight 3. Ah, ça fait des choses quand même pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. En même temps, quand on peut jouer une heure par-ci, une heure par-là. J'ai beaucoup joué aussi à Ghost of Tsushima. Je suis presque à la fin. Je suis en train de tirer pour le rallonger. Mais presque à la fin. Et j'ai aussi joué à Street Fighter parce que quand même, Street Fighter V, c'est quand même très bien. Et on va en reparler dans une seconde. Mais avant ça... News de l'industrie, il semblerait que Hideo Kojima soit en discussion, voire en discussion avancée avec Microsoft pour faire un jeu Xbox. C'est extrêmement intéressant, évidemment. Et on parlait, j'avais fait une vidéo là-dessus sur YouTube, de ce que pourrait faire Microsoft avec le Xbox Game Pass ou avec le rachat de studio du côté du Japon. Il n'est pas impossible que plutôt qu'un rachat de studio, soit parce que ce n'est pas possible, soit parce qu'ils n'ont pas hyper envie, ils soient en train de discuter avec plusieurs créateurs japonais pour amener leur prochain jeu sur Game Pass. Et ça serait un moyen de combler ce trou qu'ils ont dans l'offre. Ça serait assez intéressant. C'est encore des rumeurs à ce stade. C'est Jeff Grubb qui a relayé ces rumeurs. Mais bon, on verra. Il y a aussi Nacon, je ne sais pas comment ça se prononce parce que c'est une boîte française en fait, qui a racheté...
Ouais, moi je dirais Nacon parce que Nacon, ça sonne quand même vachement mal, quoi.
C'est pour ça que ça fait bizarre. Ils ont acheté Pastek Games. Est-ce que tu sais qui est Pastek Games ?
Pas du tout, mais je suis sûre que dans une seconde, tu vas me dire le jeu et je vais dire « Ah oui !»
Eh bien écoute, il s'agit des créateurs de Curse of the Dead Gods.
Ah oui !
On en parlait, il est sorti il y a quelques semaines, c'était vraiment une jolie petite pépite, Curse of the Dead Gods, et Nacon qui a commencé à acquérir de nombreux studios en France, a acquis Pastek Games. Alors c'est des petits studios relativement plus ou moins indés, il y a Cyanide, il y a Spiders et d'autres studios de cet acabit à peu près, Echo Software, etc. Et ils sont en train, chez Nacon, de lancer de nombreux nombreux jeux, de nombreux, enfin, ils sont en train de se faire un petit peu un statut de gros, pas de gros éditeurs, mais font beaucoup de jeux double A, et ça peut commencer à devenir un truc qui grossit sur le moyen terme, qui pourrait avoir des ambitions plus importantes, comme nous l'apprend GameCult.
Je suis complètement d'accord. Oui, c'est Big Ben hein, qui est derrière Nacon, et ça fait un moment qu'ils ont commencé les rachats intéressants. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'ils ont commencé à faire des rachats de licences où tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui a du flair chez eux. Et là, ça se confirme. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que ça devient intéressant. Et ils prennent vraiment un joli tournant. Je trouve que les rachats qu'ils font, c'est des rachats intelligents, quoi.
Et ils ont effectivement... 11 sites différents, il y en a 7 en France, mais aussi en Belgique, en Italie, au Canada et en Australie. Donc voilà, ça commence à devenir une équipe sur laquelle il faudrait garder un œil. Et également, pour le mentionner, le jeu développé par Sony, MLB The Show, et sera disponible sur Xbox Game Pass. Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est développé par Sony, par une licence de la Ligue de Baseball, Major League Baseball. Et on imagine que le jeu qui était uniquement sur PlayStation depuis un moment, dans les termes du contrat, a dû le négocier qu'il soit disponible sur différentes plateformes. Et donc, le jeu qui est développé et qui est licencié par Sony sera présent sur Xbox Game Pass. Donc, ça a fait ricaner un certain nombre de spectateurs de l'industrie. Quelques chiffres aussi. Monster Hunter Rise s'est vendu à 5 millions d'unités déjà. Et le studio, je ne sais plus si j'en avais parlé de la semaine dernière, mais le studio qui est le développeur de Honor of Kings et Call of Duty, c'est un studio de Tencent qui s'appelle Timmy Studios. Ils ont eu un revenu de 10 milliards de dollars en 2020. Voilà, c'est des chiffres que j'aime bien donner de temps en temps. 10 milliards de dollars, rien que pour le MOBA et le FPS leader sur mobile, ça vous donne un petit peu l'ampleur de ces plateformes. Des petites news de jeu quand même. Diablo 2 Resurrected va lancer son alpha, c'est aujourd'hui. Donc, gardez votre œil sur Twitch. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le streamer. Moi, je vous avoue que je suis dans l'alpha, mais je ne sais pas pour des raisons évidentes si j'aurai le temps d'y jouer. Mais en plus, Diablo 2, ce n'est pas forcément le jeu Diablo que je préfère au monde. Mais ça serait l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir, justement. En tout cas, l'alpha commence. Donc, il y aura du streaming de Diablo 2 Resurrected un petit peu partout sur Internet ce week-end, je pense. Platinum. Alors, je ne sais plus quand c'était. C'était il y a peut-être 6 mois. On a parlé de notre nostalgie de certains jeux d'arcade. Et j'avais parlé d'un jeu d'arcade que j'adorais qui s'appelait Terra Cresta et de sa suite Moon Cresta, ou c'était l'inverse, Terra Cresta c'était le deuxième. Et quelqu'un de très gentil dans l'assistance m'avait appris qu'ils étaient en vente sur Switch et j'étais allé les acheter immédiatement. Et quelques mois après, on apprend que Platinum, encore eux, est en train de développer Soul Cresta, qui est donc une suite à Terra Cresta, qui est quand même un jeu d'il y a, je ne sais pas, 30 ans, et qu'il sera disponible très bientôt. Je ne sais plus quand c'était. Bon, on n'a pas la date, mais ça devrait arriver bientôt. Et c'est un jeu de tir qui est un petit peu légendaire. Et donc, il va y avoir une suite que je pense je vais donc être contractuellement obligé d'acheter, surtout si c'est fait par Platinum qui connaissent leur truc. Et même si je n'aime pas les jeux Platinum en général, là, j'ai peur que ça aille un petit peu trop dans le bullet hell, mais bon, peu importe, il faudra que je l'achète quoi qu'il arrive. Quoi d'autre ? Oui, je trouve quand même que quand je parle dans une vidéo du moment 37, Sony rachète l'Evo, quand je parle de Terra Cresta dans un podcast, la suite arrive. Il y a quand même des choses un petit peu étranges hein, qui se passent dans le monde du jeu vidéo par rapport à mes productions. Je pense qu'il y a un truc bizarre.
Tu aurais dû surveiller.
On a un jeu indé, vous savez, on parlait de... Je ne sais plus de quoi, de quel jeu on parlait il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière ou il y a deux semaines, c'était un simulateur de café, je crois. Et bien là, il y a un simulateur de... merde, de brewmaster.
De bière.
Ouais, mais pas juste de bière,
de brasserie.
Bah, merci, voilà, de brasseur. Et on peut... faire notre propre bière. Donc, je pense que c'est un jeu qui va beaucoup plaire à Trinity. Je ne sais pas si elle boit de la bière, mais elle aime bien les trucs genre House Flipper et ce genre de trucs. Donc, la dernière fois que je suis passé sur son stream, elle était en train de jouer à House Flipper. Donc, j'imagine que c'est un truc qui lui plaira. Je voulais juste le mentionner parce que c'est vraiment marrant de dire qu'il y a des jeux de brasserie maintenant. Il y a vraiment de tout. Goat Simulator.
Très à la mode en même temps de faire sa propre bière. Hein, donc
Bah exactement, il surfe sur cette vague. Quoi d'autre ? Ah, alors maintenant, le petit coin jeu de combat. Il y a d'une part un retour de Virtua Fighter qui a été, comment dire, ils ont indiqué du côté de, je crois que c'était du côté de Sega, qu'ils ont mentionné Virtua Fighter 5 Ultimate comme le retour de Virtua Fighter et de l'e-sport. Donc les fans de Virtua Fighter ont peut-être ce jeu à attendre et peut-être même un 6 pour la suite, pourquoi pas, même si le 5 est sorti il y a un bon moment. Il y a aussi King of Fighters 15 qui continue à montrer ses personnages, ça je le mentionne juste parce que j'aime bien dire King of Fighters, mais également Street Fighter 5 qui continue le reveal de tous ses personnages avec notamment Akira Kazama de Rival Schools qui était un jeu de combat d'une époque révolue. Et bon, là encore, c'est juste parce que j'aime bien parler de Street Fighter, j'y ai joué ces derniers temps encore, c'est vraiment un jeu d'une grande qualité aujourd'hui, même s'il était décevant à son lancement. Et j'ai systématiquement la page du store de Street Fighter V ouverte avec en regardant, j'ai la souris qui passe sur l'extension Champion Edition Upgrade Kit et le Season 5 Character Pass, et j'hésite toujours à l'acheter. Je ne joue quasiment que Ryu, mais j'aimerais bien avoir tous les personnages, et donc et je sais que j'ai pas de temps, et pourtant j'ai quand même envie de les acheter. Peut-être que je craquerai un jour. Je voulais juste exorciser mon envie et mes tentations sur Street Fighter. Et puis, pour les fans de réalité virtuelle, on a un jeu qui a été annoncé sur le PSVR de la PlayStation 5, donc le PSVR 2, un jeu qui plairait à JK sans doute, puisqu'il fait hyper années 80 dans sa présentation. Bon, le jeu en lui-même n'a pas l'air incroyable, c'est un jeu où on est sur une moto et où on tire sur d'autres motos. Bon, ok, j'ai l'impression que la cinétose, ça va y aller pour un jeu comme ça en VR, mais c'est surtout intéressant parce que ça veut dire qu'on commence à avoir des jeux annoncés pour PSVR 2, et donc ça continue à indiquer que la VR est un domaine que continuent à explorer certains développeurs. Je voulais le mentionner. Et puis c'est tôt, sans doute, pour le PSVR 2, mais c'est intéressant qu'il le mentionne. Quoi d'autre ? Quelques petites news en plus. Metroid. Ah oui, alors il y a eu le 1er avril dans Overwatch était super sympa. Ils ont changé une ou deux capacités de chaque personnage pour qu'elles soient overpowered, mais de manière marrante. C'était vraiment marrant. Si vous l'avez raté, c'est dommage, parce que pour le coup, c'était un truc rigolo qui se passait dans Overwatch. Et l'événement du moment est pas trop mal foutu avec les archives. Bon, ça parlera qu'aux fans d'Overwatch, donc je vais tourner la page. Il y a un remake en 2D de Metroid Prime qui est jouable maintenant. Alors j'imagine que Nintendo va tomber dessus immédiatement. C'est un truc qui avait été annoncé il y a des années et des années, et maintenant, bon, je suis sûr aussi qu'on pourra le trouver si on est assez malin pour ça, mais c'est une idée marrante de refaire Metroid Prime en 2D alors que c'était quand même le premier Metroid 3D.
C'est pas ce qu'on appelle les D-makes.
C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu différent d'un D-Make parce que c'est pas juste la transformation d'un jeu de technologie récente sur une technologie ancienne. Il y a vraiment cet aspect Metroid Prime, c'était l'arrivée en 3D de Metroid. Et là, ils l'ont refait vraiment en 2D. C'était l'objet du truc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Mais oui, c'est une sorte de D-Make, ouais. Quoi d'autre qui était marrant? Il y a un Castlevania Dreamcast qui a été découvert. C'était un prototype qui avait juste été présenté une fois à l'E3 et il n'avait jamais vu le jour et il a été découvert je ne sais même plus où. Et c'est marrant de voir ça. Alors, pour différentes raisons, il n'a pas été plus loin que le prototype et il était développé aux États-Unis, ce qui a peut-être poussé Konami à ne pas le pousser plus loin. Mais c'était intéressant de voir qu'on peut découvrir des trucs comme ça qui sortent de nulle part, qu'on pensait perdus. Et puis, il y a un exemplaire de Super Mario Bros. Sur Nintendo Entertainment System qui s'est vendu pour 660 000 dollars. Si vous vous demandez pourquoi il s'est vendu aussi cher, c'est parce que non seulement c'est une édition un peu rare du truc, il y a genre un label qui manque sur la boîte, mais en plus de ça, il est dans le plastique, l'emballage, et dans la boîte en plastique du truc, enfin non, il est encore dans le plastique de l'emballage, en fait, pardon, je m'égare, il est encore dans la boîte en plastique de l'emballage, et je sais plus s'il est aussi dans la boîte, le carton, pardon, pas le carton, mais la boîte en plastique du magasin, j'avais lu et j'ai oublié maintenant, mais bref, plus de 500 000 euros pour un jeu Mario, je pense que...
Est-ce que le gars qui s'est offert ça... Est-ce qu'il a pu se l'offrir grâce aux cartes Pokémon qu'il a vendues des dizaines de milliers d'euros Je ne sais pas si tu en avais entendu parler de
cette
histoire.
Oui,
mais...
y a des trucs qui se vendent. C'est marrant, c'est des trucs de notre jeunesse, en fait. Les gens qui sont devenus riches...
C'est le marché de la collection.
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'impression que je me trompais pas dans mon intuition initiale. C'est bien ça, c'est une boîte en plastique anti-vol. Je crois bien que c'est ça. C'est le cas. Mais bon, bref, peu importe.
Alors, la question, c'est qu'est-ce que ce jeu faisait encore dans sa boîte en plastique anti-vol, quoi ?
Tu sais, c'est des trucs qui sont des magasins qui ferment, qui en ont, au moment où ils ferment, pas vraiment l'intérêt, parce que c'est quelques années après la sortie du truc, ils ne savent pas quoi en foutre, et on les retrouve dans des entrepôts de stockage 20 ans après. Okay. J'imagine que c'est ce genre de truc, tu vois. Mais bon... Donc voilà, et puis le dernier truc dont je voulais parler, c'est deux trucs autour du jeu vidéo. D'une part, le tournage de la série Last of Us a commencé et elle va durer un an, donc on aura peut-être une sortie dans un peu plus d'un an de la série de Last of Us. Et l'autre sujet extrêmement important, c'est qu'on a un frigo Xbox qui va sortir. Vous vous souvenez de la blague avec le frigo Xbox, un mini frigo Xbox qui va vraiment être fabriqué. J'en rigole, mais j'irai pas non. J'ai un petit frigo dans mon bureau là. J'irai pas non par l'idée de le remplacer par un vrai frigo Xbox.
Alors, c'est un frigo de quelle taille du coup ?
Bah, c'est un mini frigo, donc j'imagine que tu vois, c'est un truc pour mettre deux bouteilles, enfin de trois canettes de bière, tu vois, un truc comme ça. Moi, je mettrais du thé.
Alors,
dedans.
Du coup, est-ce qu'il va faire la même taille qu'une Xbox Series X ou...
Je sais pas, peut-être, oui, peut-être que ça sera pile la même taille. Ça serait un peu trop petit pour moi, du coup. Mais...
La question, c'est que s'ils font un frigo de vraie taille frigo, est-ce qu'ils vont faire la manette à l'échelle, tu vois ?
Et du coup, s'ils font ça, quelle fonction aura la manette ? C'est ça qui est important.
Sûrement des fonctions domotiques très intéressantes et pointues.
Certainement, oui. Connecté à Alexa, même si Alexa est en train de nous dire au revoir. Bon. Donc voilà pour les petits sujets marrants que je voulais évoquer. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui s'est passé et on n'a pas eu d'interruption bébé. Donc je pense que cet épisode... s'est bien passé. Et non, ça n'est pas un 1er avril, cette histoire de frigo Xbox. Ça pourrait,
c'est vrai
effectivement, mais ça n'en est pas.
Ça y ressemble.
Ouais. Merci Eska d'avoir été avec moi pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où on
avec
peut
plaisir.
Te retrouver sur Internet?
Oui, alors on peut me retrouver sur Twitter, Escarina _, on peut me retrouver sur Kiss My Geek, et en côté podcast, et ben chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois, et sur Super Gamerside un petit peu moins souvent, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des podcasts de façon virtuelle comme on peut le faire ensemble. Du coup, l'organisation n'est pas tout à fait la même.
Ouais, c'est sûr que descendre les bières chacun chez soi, c'est moins drôle tout de suite. Hein, donc forcément...
Bah oui, c'est moins fun. Bah, puis on a quand même des restrictions là, avec les couvre-feux et compagnie qui sont un peu contraignantes. Donc,
Non, mais si vous pouviez faire de chez vous, tu vois, ça serait plus simple. Si vous aviez développé cette technologie interactive d'interaction à distance.
Trinquer.
Ouais. Voilà, c'est ça. Trinquer et se taper dans le dos à distance, ça fonctionnerait mieux, hélas.
Ben, c'est sûr que l'alcool en réunion étant notre sujet principal, notre raison principale de se voir, bon, bah, du coup.
Je comprends. Merci
Avec modération,
Eska.
Bien évidemment.
Évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas d'aller voir cette vidéo dont je vous parlais sur youtube.com/NotePatrick, où je parle de la cherté du jeu vidéo. C'est marrant d'ailleurs parce que dans les commentaires, les gens sont plutôt d'accord avec moi, alors que j'ai l'habitude que les gens disent « Oh, les jeux vidéo, c'est super cher !» Alors qu'en fait, j'ai l'impression que ça doit être une minorité vocale qui exprime ce sentiment, parce qu'en tout cas, dans mon audience, les gens sont plutôt d'accord avec moi sur ce point. Bref, la vidéo est cool quand même, je vous invite à aller la voir et à retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com. C'est le numéro, l'URL qu'il faut retenir, 3615 notepatrick.com, avec évidemment le Patreon sur patreon.com/rdvjeux, dont le lien est dans les notes de l'émission. Pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous en remercie par avance si vous appréciez nos petites émissions hebdomadaires. A priori, il y aura des choses pendant que je ne suis pas là pour le rendez-vous jeu. Peut-être pas toutes les semaines, mais il y aura des choses gérées par des amis que vous connaissez bien. Donc, il y aura quand même des émissions qui arriveront. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous et toutes et je vous donne rendez-vous j'espère pas la semaine prochaine. Parce que si on y est encore la semaine prochaine, je vous assure que ça ne va pas être très agréable pour ma femme. Donc, j'espère
femme
que
t'aura tué d'ici là, je pense.
Bah, pas moi, j'y suis pour rien.
Il faudra bien qu'elle fasse ses nerfs sur quelqu'un. Ouais.
Non, ma femme est quelqu'un de très raisonnable. Donc, elle sera furieuse contre le monde, tu vois, contre l'univers. Mais bon, donc j'espère pas la semaine prochaine. Mais pour ceux qui sont sur Patreon, on a l'after show qui arrive tout de suite. On va quand même en faire un petit, même si je suis très fatigué. Et puis, pour les autres, on se retrouvera très bientôt. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes. Ciao, ciao.